Pero me ayuda.
Qué triste. Se oye la lluvia, y las luces de la
luna.
Triste vive mi gente, los techos de cartón.
Πολλές ακόμη που τους έχει κοπεί το ρεύμα. Για εσάς λοιπόν που αντιμετωπίζετε τέτοιο πρόβλημα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ της Κομωτινής υπεύθυνη είναι η κυρία Πρεβανά ή στο Δήμο Κομωτινής, ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Γκαράνης, ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ, οι οποίοι θα σας πούνε τι ακριβώς χαρτιά απαιτούν και τι διαδικασίες για να αποκαταστήσουν.
Слушайте свои любимые станции на 101.ru.
Και το ξέρεις. Πέφτω στη θάλασσα και πάλι βρέχομαι και πάλι έρχομαι γονά. Μέσα απ' τα κύματα κάνω τα σήματα που με φωνάζουν στα νυχτά.
Nous avons reçu une délégation de femmes plutôt jeunes. Nous avons préparé leur séjour, moins d'une semaine. Elles sont venues pour parler, sont parties, reparties. Pas chez elles, mais rentreront plus tard chez elles, dans leur famille, dans leur village, parce qu'elles vivent dans des villages. Elles ont mangé des œufs, entre autres. Elles ont dansé, certaines, deux d'entre elles. Elles ont dit des choses, en vrai beaucoup de choses. Elles avaient des casquettes, elles ont des casquettes. Elles ont voyagé par ici en minibus de l'association. Savons-nous de quel monde nous sommes ? Là, je suis dehors.
Là, je suis dehors.
Il y a un peu d'air. Par ailleurs, j'essaie d'envoyer de l'argent, ça ne marche pas. Ça fait plus de 10 jours que c'est comme ça. Voyageant vers la mer, des bracelets, des colliers, une voiture débordante de valises, un crayon, un numéro, une allée de gravier, une serre, un abri, des cailloux lancés vers les hirondelles. La plage pendant tout l'été. La cuvette pleine d'eau. Du café. 8 volumes neufs d'une encyclopédie étrangère. Puis la plage en automne. La peau. Un téléphone de maison. Ta peau. Ma peau. Pas de porcherie, pas de porcelet. Quelques nids, quelques frayeurs, des semaines d'affilée, de la brume, puis le ciel très bleu, une manifestation de résistance. Hier, les nuages passaient très haut, des billes, un vélo, une serviette autour du cou. Des manifestations de résistance. Une bouteille. Un bruit de papier froissé. Une géographie. Une assiette. Une cachette. une fenêtre prise par les plantes, le poulailler parmi les arbres, une douzaine de planches, les poissons, les orages, les tuiles par terre, un tourbillon de fleurs, les yeux fermés, attraper le vent. Le toit d'une auto, une journée à la fenêtre, un cendrier sur le bord de la table. Quelques rues au trottoir d'herbe, des boyaux, des tripes, une boulangerie. Des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. J'ai lu l'époque des grandes paniques, des haines dévastatrices et passagères. Savons-nous de quel monde nous sommes ? De quel monde sommes-nous ?
question hypothétique, vous rencontriez Monsieur X. Vous le trouveriez sympathique. Il n'aurait pas lu vos livres. Et il éprouverait, lui, le besoin de vous demander, racontez-moi un peu ce qu'il y a dans vos livres. Et vous éprouveriez le besoin de faire l'effort de lui expliquer. Dans cette hypothèse-là, qui est assez complexe, comment vous répondriez-vous? Merci. Qu'est-ce que vous lui diriez?
On pourrait peut-être... On pourrait peut-être évoquer...
Ça m'est justement déjà arrivé une fois, à Mexico. J'avais un ami qui était un indien huichol, et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'écrivais des livres. Alors justement, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces livres-là? Qu'est-ce que vous écrivez? Et j'ai dû essayer de lui expliquer justement ce que c'était d'abord qu'un roman, parce que lui ne comprenait pas trop ce que ça pouvait être qu'un roman. Alors j'ai dû lui dire qu'il y avait une coutume en France, chez les gens qui n'étaient pas huichol, d'écrire chacun écrivait une histoire comme ça, et dans cette histoire il essayait de dire ce qu'il pensait, ce qu'il avait frappé, ce qu'il avait vu dans la vie, enfin comment il comprenait la vie et des choses de ce genre là d'ailleurs il l'a assez bien compris, enfin je crois que ça ne lui a pas paru bizarre. Il ne m'a pas regardé bizarrement comme souvent on regarde les gens quand on pas. Il a eu l'air d'admettre, mais il faut dire les Witchers sont des gens très intelligents, ils admettent à peu près tout ce que d'autres gens n'admettraient pas. Enfin, ce que, par exemple, les Européens n'admettraient pas des Witchers, eux ils admettent ces choses-là. Et donc je lui ai dit ça, les romans c'est ça, c'est, par exemple, vous dites, comme vous n'aimez pas parler de vous, eh bien vous inventez un personnage, et puis ce personnage, il va et vient dans la ville, il regarde ce qui se passe autour de lui, il vit en quelque sorte, il a une vie, et dans cette vie il fait des découvertes tous les jours, des petites choses et des choses plus importantes. Il marche dans la rue, il voit des voitures, il voit des autobus, il voit des avions dans le ciel, ou bien alors il se promène à la campagne et il regarde le paysage et voilà, il pense des choses, enfin, c'est ça. Ça, c'est le roman.
Et si vous avez demandé, ben, expliquez-moi ce que c'est qu'un essai par rapport à ce que vous appelez un roman, ce que vous auriez répondu?
Ben, j'ai eu d'ailleurs à le faire. J'étais en visite chez les Witchell et je dormais avec la tête appuyée sur un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Ça, c'est un livre assez épais.
Oui.
Et un jour, deux ou trois Witchell, enfin, des adolescents, m'ont demandé de qu'est-ce que c'était. Je leur ai dit, ben, c'était un livre. Ils m'ont demandé de quoi on parlait dedans, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait bien y raconter. Alors j'aurais traduit en huichol avec les mots que je savais, j'aurais traduit les mots et les choses. Et ils m'ont demandé un peu de leur expliquer de quoi ça parlait. J'aurais dit que ça parlait du langage, des rapports entre le langage et la réalité. Et ils ont admis assez vite, enfin, qu'il pouvait y avoir en effet des livres comme ça qui soient des théories sur le langage. Et cela en partie parce qu'eux-mêmes ont une civilisation extrêmement faite autour de classements. Je veux dire, dans leur langage, et, les mots sont classés par ordre. Il y a les mots pour désigner des choses arrondies, les mots pour désigner des choses vastes, les mots pour désigner des choses éparpillées, etc. Enfin, il y a tout un classement de mots. Donc ça, ils comprenaient bien. Mais pour en ce qui me concerne, si j'avais eu à expliquer pourquoi j'avais écrit l'extase matérielle, ça aurait été peut-être plus difficile. Il aurait fallu leur dire que j'avais toujours été consterné par les essais. Je me demandais comment on pouvait écrire des essais, enfin dire je pense ceci, je pense cela. Ça me semblait extraordinaire qu'on puisse faire ça. Alors j'ai voulu écrire un essai qui soit tout le contraire, enfin qui soit une façon de dire que rien n'est limité au livre, tout déborde du livre. avant la vie, avant la mort, il y a tellement de choses que cet instant rapide qu'on appelle la vie, ce n'est pas grand-chose, c'est pas ça qui compte énormément. La société humaine, c'est pas ça qui compte tellement. Les petites idées d'un individu, ce n'est pas ça qui va compter énormément. Ce qui compte, c'est... Finalement, cet ensemble de forces qui forment un univers, un monde, ou bien une ville, ce sont ces ensembles qui sont extraordinaires. C'est que ces étiquettes dont vous parlez, elles sont en fait, elles servent à donner l'impression qu'il y a des caractères, qu'il y a des talents, qu'il y a des personnalités. Or, je suis de plus en plus persuadé que tout le monde pense la même chose, que tout le monde est à peu près pareil et qu'il n'y a pas véritablement véritablement de caractère. Enfin, ce qu'on appelle un caractère, ça, c'est très très artificiel, c'est formé de détails comme ça qui sont pas très très importants. Et ce qu'il y a, c'est que les situations changent, alors les individus, eux, changent. Mais vous apercevez très vite que dans des sociétés, par exemple, où les situations ne changent pas, vous voyez à quelle société je fais allusion, des sociétés où les situations sont toujours les mêmes, cultiver la terre, regardez le soleil se lever puis se coucher, eh bien, vous apercevez que les gens n'ont pas tellement ce qu'on appelle le complexe de la personnalité. Ils savent qu'ils sont là et puis c'est tout. Enfin, il n'y en a pas un qui se croit supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui pense qu'il est plus intelligent, ni plus beau, ni plus riche. Enfin, c'est comme ça. ils sont comme ça, ils ne cherchent pas à se dominer les uns les autres, à faire passer leur petit caractère avant celui de leurs voisins. Alors les étiquettes, ça sert justement dans une société de caste, de classe, enfin tout ce que vous voulez, ça sert à faire des degrés. Alors il y a celui qui est intelligent, il y a celui qui est riche, etc. Enfin, et il y a celui qui a peur de vivre et celui qui est content de vivre. Non, je crois que j'étais très très mauvais professeur, mais ça a été pour moi une expérience vraiment bien parce que ça m'a assez, je veux dire, ça m'a appris des choses que je ne connaissais absolument pas et ça m'a obligé, enfin, j'étais obligé d'être professeur, c'était une nécessité pour moi à ce moment-là et ça m'a montré que il pouvait y avoir une façon de s'adresser aux autres qui n'était pas celle de l'écriture. Je n'étais pas un bon professeur parce que je ne savais pas faire des cours. Enfin, je n'avais aucun goût pour la hiérarchie, pour le professeur qui est supérieur aux élèves. Je n'avais pas tellement de goût non plus pour la hiérarchie, c'est-à-dire les bons, les mauvais et les moyens. Pour moi, tout le monde était bon, tout le monde travaillait, donc tout le monde était bon. Et je n'avais pas tellement de goût non plus pour les diplômes de fin d'année, enfin, c'est-à-dire ceux qui réussissent les examens, ceux qui les ratent. Ceux qui sont passés avec moi ont tous réussi cette année-là. Mais cela dit, ça m'a vraiment intéressé. J'ai trouvé que c'était assez bien d'être professeur.
Qui gagne